Chers frères et sœurs, nous voilà à travers les textes bibliques proposés ce jour dans l'univers splendide de la vigne et du vin. Et dire que certains prétendent que la Bible est ennuyeuse et que les vieux protestants sont des rabat-joie. Sottise. Quel bonheur de parcourir ces textes parsemés de vignes, de pressoirs, d'enclos, de ceps, de sarments, de fermer les yeux. Vous êtes dans un temple, il n'y a rien à voir de toute façon. Fermez les yeux et imaginez-vous. Imaginez-vous par une belle fin d'après-midi, dans un superbe vignoble, plat ou vallonné, peu importe, en notre saison d'automne, où les motifs bordorés des feuilles et le vieil or des grains translucides gorgés de sucre le disputent aux dorures moirées du soleil couchant. Vous y êtes, vous sentez cette odeur, cette puissante odorante qui monte du sol, les relents de sous-bois les plus parfumés, les effluves les plus minérales, qui annoncent déjà le bouquet du sublime breuvage à venir, bientôt partagé avec de bons amis au bon moment. Oui, frères et sœurs, si nous fermons les yeux, nous y sommes dans ces vignobles. Dans ces vignobles de la Bible, dans ces vignobles de chez nous, quelle importance au Pixel ou au Königsbourg, vers les hospices de Rome, nous y sommes. Dans ces paysages, dans ces textes, envahis par une sensation de bien-être naturel, de communion avec la nature, avec la terre. Que c'est beau. Ça vaut tous les synodes sur l'écologie. Alors maintenant, vous allez rouvrir les yeux. Rouvrez les yeux et regardez autour de vous. Que voyez-vous ? Des gens. Des humains, des semblables. Alors tout de suite, c'est moins romantique. Et oui, hélas, la vigne n'est pas le désert. La vigne est peuplée. La vigne est habitée. Qui dit vigne, dit aussi vigneron. Et, pardon par avance s'il s'en trouve dans cette digne assemblée, ceux de la Bible, ils sont particulièrement mauvais. Ceux de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Non seulement le fruit de leur vie est infect, comme chez Esaïe, ce qui présage le pire moment, bien sûr, au moment de la vénification, mais en plus, chez Matthieu, il semble qu'ils soient mauvais en eux-mêmes, nous dit le texte. Et quand on parcourt un petit peu les différentes lignes en français, on regarde les titres, qui sont donnés, eh bien, chez Matthieu, ben, on trouve la parabole des mauvais vignerons, des vignerons méchants, la parabole des vignerons meurtriers, les métayers révoltés. Autrefois, nous disions les vignerons homicides. Bon, ça fait un peu virucide, vous voyez, dans notre actualité, c'est pas très heureux. Prenons en acte, tous les titres se focalisent sur ces vignerons, ces métayers, ces tenanciers, dont la qualification renvoie au mal, au meurtre. Soit, nous verrons plus tard que ce n'est peut-être pas si évident, et qu'il faut peut-être parfois nous méfier de nos habitudes de lecture. Mais pour l'instant, je vous propose deux moments. Un premier moment où nous allons parcourir, nous promener dans cette parabole, dans ce vignoble peuplé de méchants vignerons, pour voir un petit peu quelles sont les interprétations qui ont été données. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être que nous essaierons de voir ce que l'on peut en faire pour notre temps. En suivant cette piste des mauvais vignerons, des meurtriers, on est alors en mesure de dérouler plusieurs explications possibles, dont la plupart des commentateurs, font remarquer que cette parabole fait partie d'un triptyque. Elle est précédée par la parabole des deux fils, ou bien le fils qui dit non, et elle parabole des invités au festin. Vous savez, ceux qui se dérobent. Et prise dans l'ensemble, nous dit-on, cette parabole s'inscrit dans un contexte polémique entre Jésus et les chefs religieux juifs de son temps, d'une part, mais elle rend compte aussi, d'autre part, de la manière dont les premiers chrétiens, ici la communauté de Matthieu, qui a reconnu en Jésus le Messie, se trouvent confrontés à son rejet violent de la part du courant juif majoritaire. D'où toute cette violence que l'on peut trouver dans Matthieu, dans le récit de Matthieu. Comprise dans ce contexte et du point de vue de la forme, le texte est très clair, puisque Jésus le dit lui-même à ses auditeurs, écoutez une autre parabole, la parabole, cette façon de raconter une histoire imagée, et nous le savons, un des moyens privilégiés par Jésus pour son enseignement. C'est une manière de faire parler les images, selon le beau titre du petit livre de Céline Romer, d'exprimer des vérités sans toutefois en épuiser totalement le sens. Il s'agit pour Jésus plutôt de guider, d'orienter ses auditeurs, les auditeurs de ses paraboles, sur un chemin de vie pour les faire se déplacer, changer de point de vue, s'interroger sur ce que Dieu attend et le mettre en pratique. Alors, en présence d'une parabole, pour pouvoir en comprendre la portée, le sens, il faut donc, en général, décoder les images, identifier à quoi ou à qui il est fait allusion à travers les métaphores ou les allégories qui s'y déploient. Tantôt, c'est relativement clair, comme dans le texte des Amis, où l'on comprend que la vigne représente Israël, le peuple qui n'a pas suivi les voies de Dieu, qui a produit des fruits infestes au lieu de produire les fruits de la justice et de la droiture, d'où le jugement qui s'abat sur ce peuple infidèle. Dans le texte de Matthieu, c'est aussi assez clair, du moins dans les grandes lignes, Dieu est le maître de la maison, le maître de maison, le propriétaire de la vigne, comme des amis, et on peut supposer que les auditeurs de Jésus qui enseignent dans le temple se reconnaissent dans la vigne en tant que peuple d'Israël auquel ont été successivement envoyés sans succès les serviteurs, avec le destin que l'on sait, le destin tragique, les serviteurs étant les prophètes, bien sûr, et jusqu'au propre fils du maître Jésus, appelé plusieurs fois le fils de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Le dénouage se fait donc de manière assez claire. C'est d'ailleurs la seule fois où Jésus se met lui-même en scène, aussi directement, dans une parabole. Par ce récit, que l'on trouve aussi chez Marc, chez Luc, Jésus annonce ce qui va se passer. C'est une anticipation de la passion, du rejet de Jésus par les Juifs. Seulement, à y regarder de plus près, comme souvent dans les paraboles, les choses ne sont pas aussi simples. Et il n'est pas si évident de faire correspondre terme à terme une image et une réalité. Pour certains, les vignerons meurtriers sont les chefs religieux seulement, et non l'ensemble du peuple. Mais l'idée que le peuple n'aurait qu'à changer de chef pour devenir le peuple ou la nation fidèle à qui sera donnée la vigne contredit quand même un peu l'enseignement des évangiles et du Nouveau Testament en général. En effet, le meurtre de Jésus et sa résurrection inaugurent un temps nouveau et non pas le remplacement ou la répétition d'un état antérieur. Pour d'autres, la vigne représente le royaume de Dieu confié à Israël, et la lecture d'Ésaïe nous oriente là-dessus. Cependant, Jésus ne présente pas explicitement au début cette parabole comme étant une parabole du royaume. Il se pourrait que ce verset-là soit déjà une interprétation. D'autres, enfin, pensent que Jésus annonce qu'au dernier jour, les prêtres seront remplacés. Ils seront remplacés par les croyants, par les pauvres auxquels Jésus s'est adressé et qu'il rassemble. Bref, cette image de la vigne et son identification à tel ou tel groupe de personnes résistent à une interprétation unique, simple, voire simpliste. Par conséquent, contrairement aux raisins, il ne faut peut-être pas trop presser l'image de la vigne, mais il faut interprétation autre, un surplus de sens, comme dans une parabole, qui échappe au passé et qui pourrait bien nous concerner directement dans notre monde d'aujourd'hui. Car on peut se poser la question, frères et sœurs, si ce texte-là est une affaire qui date du 1er siècle, de conflits entre Jésus et les pharisiens, les chefs religieux et la communauté de Matthieu, en quoi cela nous concerne-t-il? Nous, protestants du 21e siècle, nous n'allons tout de même pas nous identifier à ces vignerons meurtriers. On n'en est pas là. Nos pères, nos églises, nous-mêmes, avons accepté et confessons Jésus comme le Christ. Nous ne le rejetons pas, nous le célébrons. Nous sommes les héritiers, nous nous croyons, mais pas les héritiers des nouveaux vignerons à qui la vigne a été donnée. On ne revient pas sur l'héritage tout de même. Sauf dans un cas précis, quand l'héritage est trop lourd à porter, quand on découvre qu'il y a des dettes à payer. Mais là, ce n'est pas le cas. Et la bonne vieille théologie évangélique de nos cantiques le répète bien assez, Jésus a tout payé. Alors, certes, tout cela peut se concevoir. Notez cependant que ce dernier argument n'est peut-être pas le plus rassurant pour qui cherche à comprendre en profondeur la nature de notre relation à Dieu. Et le fait même de se poser la question de notre dignité, de notre fidélité, de notre qualité d'héritier, a quand même de quoi nous déstabiliser un peu. Sommes-nous les héritiers? Sommes-nous si fidèles que ça? Sommes-nous meilleurs, au fond, que ces vignerons homicides? Et puis, il y a dans cette parabole, et celle-ci n'échappe pas à la règle, des choses qui ne collent pas. Des extravagances qui ne doivent pas cesser de nous interroger, du côté des vignerons bien sûr, mais aussi quand même beaucoup en ce qui concerne ce maître de maison, que Jésus appelle un peu plus loin le seigneur de la vigne. Observez l'énergie qu'il consacre à son entreprise, et là il y a un parallèle avec le texte d'Ésaïe. Dans le texte de Matthieu, il y a pas moins de 4 verbes qui décrivent son acharnement. Il plante sa vigne, il met une clôture, il creuse un pressoir, il construit une tour. Le texte laisse entendre que c'est lui-même qui fait tout ça. Et après, il part. Il part comme s'il se désintéressait de cette œuvre qui lui a pris toute cette énergie. C'est un peu étrange quand même. Et ce n'est pas tout. Son acharnement, sa détermination confine à l'aveuglement. Il missionne, c'est le mot qui est employé ici et qui a donné apôtre en français. Hein. Il missionne des serviteurs, une première série, pour récolter la vendange. C'est un échec. Mais tout de suite, à nouveau, nous dit le texte, immédiatement, il envoie, il missionne une deuxième série, plus nombreux. Si ce n'est pas de l'entêtement, nouvel échec. Car cela ne tienne, ce fou, car comment qualifier le pari qu'il fait sinon un acte de folie, ce fou envoie son propre fils, comptant sur une lueur de respect et de crainte de la part de ses assassins, qui eux relèvent d'un autre type de folie, la folie meurtrière, la pulsion de mort. Ne faudrait-il pas, frères et sœurs, changer le titre complètement de cette parabole et arrêter de parler de la parabole des vignerons meurtriers, mais plutôt la parabole du viticulteur insensé? Je milite pour un changement de titre. Les deux se tiennent. Et on constate un beau parallélisme dans la furie de l'un qui plante, qui clôture, qui creuse, qui construit, et des autres qui saisissent, qui battent, qui tuent, qui lapident. Comme si on avait affaire à deux postures, deux univers mondaux étrangers, hermétiques l'un à l'autre. Et je crois, frères et sœurs, que c'est bien cela qui doit nous interroger ce matin, nous bousculer aujourd'hui. Peut-être Paul nous dit quelque chose du grand projet de Dieu pour nous, de la création à la rédemption, sur la manière dont il veut que les humains occupent le monde et l'Église et le but qu'ils doivent poursuivre. Car la vigne pourrait tout aussi bien désigner la terre habitée que l'Église. Cultiver et rendre un culte ont la même racine étymologique. Cette vigne, c'est à la fois notre culture, ce que nous essayons de cultiver d'être, et en même temps, c'est notre culte, celui que nous essayons de rendre à Dieu. Et cette parabole nous dit quelque chose sur cette manière d'habiter et notre culture et notre culte. Et on voit bien, à ce moment-là, comment le texte peut s'éclairer autrement. Ce que peut nous dire cette parabole, c'est qu'après avoir institué l'humain comme un gestionnaire, comme un gérant de la création, Dieu s'est retiré, Dieu s'est absenté, mais non pas à la manière du Dieu de Voltaire, qui disait, vous savez, l'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe, et n'est point d'horloger. Pour le philosophe, une fois l'horloge fabriquée, eh bien l'horloger n'intervient plus. Non, ici, au contraire, l'horloger, si j'ose dire, a une attente. L'horloger attend le moment, le kairos dans le texte grec, de récolter les fruits de la vigne, ce moment sacré des vendanges qui voit l'accomplissement de tout l'amour, de toute la patience, de tous les soins qu'il lui a fallu déployer. Et si Dieu se retire, c'est bien parce qu'il veut faire à tout prix confiance à ses vignerons. Il leur laisse une entière autonomie de moyens dans leur culture et dans leur culte. Au fond, Dieu fait un pari fou, un pari insensé. Il prend un risque inouï, celui de croire en l'homme. Voilà une folie de Dieu. Mais le texte biblique nous le montre bien. Nous ne sommes pas vignerons aujourd'hui, pas plus que ceux d'hier, à la hauteur des espérances divines. Notre péché, nous, habitants de la terre, membres d'Église, est d'avoir cru ou de croire pouvoir mener une vie en totale autonomie. Nous misons en nous-mêmes, que notre raison, notre intelligence, notre technique nous suffisent pour vivre pleinement, parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Et nous oublions notre statut de créature, à jamais lié à leur créateur, notre statut d'image de Dieu. Reprenons la parabole. C'est quand il voit l'héritier, quand il voit le Fils, quand il voit l'héritier, qu'il voit à travers lui le propriétaire. C'est leur image, cette image du Fils qui renvoie à l'image du Père. Et là, les vignerons prennent conscience de la folle liberté dont ils peuvent faire usage. Se voir nous aveugle. Au lieu de reconnaître dans le Fils le lien de dépendance, de proximité, d'amour avec leur propriétaire, nous autres vignerons, nous choisissons l'indépendance absolue, l'altérité radicale qui conduit au repli sur soi, à l'isolationnisme, j'ose à peine dire au séparatisme. Frères et sœurs, l'histoire du christianisme fourmille d'exemples de cette folie autonomiste, autarciste, de celles et ceux qui prétendent vivre leur foi en se prenant eux-mêmes pour la norme, au risque d'assassiner le Christ une nouvelle fois. Calvin voyait dans ses vignerons meurtriers le pape et le clergé catholique de son époque, retenant les fidèles comme dans un enclos, empêchant Dieu d'y avoir accès. Ils sont, dit-il, responsables d'ôter méchamment à Dieu son droit. Et, dit-il, qu'encore maintenant ils sont prêts de mettre à mort le Fils, même si en fin de compte, ils ne demeureront pas impunis parce que Dieu se lèvera quelques jours pour faire la vengeance et maintenir son droit. Ainsi, pour Calvin, les méchants vivront, et bien ce sont les autres, toujours dans la nuance, Calvin, le pape, les archevêques et les évêques et les autres. Ce qu'ignorait Calvin, c'est que certains de ses successeurs feraient de même, emprisonnant les fidèles, non dans des rites romains, superstitieux et mariolâtres, selon son point de vue, mais dans des doctrines figées et autosuffisantes, empêchant là encore Dieu d'accéder à ses fidèles. Alors vous connaissez peut-être cette histoire drôle qui circule parfois chez les théologiens. Il faut se méfier parce que ce qui est drôle pour les théologiens, en général, n'est pas forcément pour le reste du commun des mortels. Mais vous connaissez peut-être cette histoire. Ça se passe chez les théologiens qui ont l'habitude du dialogue œcuménique. Voilà qu'un jour, l'un d'eux, un théologien catholique romain, meurt. Comme c'était un saint homme de son vivant, alors il se retrouve au paradis. Alors là, il y a une contradiction que je n'ai pas le temps de débroussailler avec vous, parce qu'un saint homme de son vivant qui est au paradis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je laisse ça de côté. C'était un saint homme de son vivant, il arrive au paradis que Saint-Pierre lui fait visiter. Bien sûr, il est émerveillé. Il se retrouve un peu comme au Vatican, mais en mieux, si vous voulez. Vous avez là des terres précieuses, depuis les bâtiments jusqu'au vêtement des élus. Il est émerveillé. Or, en se promenant dans la cité céleste, il remarque un endroit qui l'intrigue, une sorte d'enclos, avec de hautes murailles, un peu comme cette vigne qui est entourée d'un enclos avec une tour. Oui, il remarque cet enclos. Comme une enclave avec à l'intérieur des gens vêtus de noir, comme les corbeaux, comme James et moi aujourd'hui, et néanmoins dans un état parfait de béatitude, comme les autres habitants du paradis. Il interroge donc Saint-Pierre, qui lui explique volontiers. Ah, cela ! Mais oui, ce sont les calvinistes, ceux qui croient à la prédestination. Ils s'imaginent qu'ils sont tout seuls ici. Ne vous montrez pas trop, vous leur ferez la peine. Frères et sœurs, l'humour potache des théologiens contient parfois des vérités très sérieuses. Rejeter le Christ hors des murs de l'Église, hors des murs des Églises, quelles qu'elles soient, n'est pas si inhabituel que ça. Et tous les chrétiens le font, chaque fois qu'ils cherchent la vérité uniquement en eux-mêmes. Chaque fois qu'ils recherchent l'autonomie absolue, l'entre-soi, le refus de l'autre avec un petit A, comme le refus de l'autre avec un grand A, les deux étant parfaitement liés, comme Luther nous le rappelle lorsqu'il dit « Quant à mon prochain, je veux devenir pour lui un Christ, comme le Christ l'est devenu pour moi, et ne rien faire de plus que ce que je verrai lui être nécessaire, utile et salutaire. » Accueillir l'autre, l'altérité, c'est aussi accueillir comme le Christ nous accueille. La parole de ce jour nous avertit, nous, chrétiens du 21e siècle, comme elle a frappé les auditeurs de Jésus dans le temps, rejeter le Christ, c'est rejeter les autres, et réciproquement, le tout revenant à rejeter Dieu lui-même, qui lui pourtant fait tous les efforts possibles du monde pour ne pas nous rejeter. J'espère que vous avez suivi. Le texte nous met en garde. Et la grande violence qui s'y déploie incite à prendre cet avertissement au sérieux. Chrétiens, vous êtes des êtres relationnels. Vous ne sauriez vivre ni croire sans une relation forte, honnête, authentique, à la fois à Dieu et aux autres, qui sont pour vous des images du Christ, comme vous devez l'être pour eux. Non, dit le texte à M. Jean-Paul Sartre, l'enfer ce n'est pas les autres. Enfin, pas tout le temps et de manière absolue. Cet alliage, et je terminerai par là, cet alliage d'une relation authentique et à Dieu et aux autres se retrouve bien sûr dans la figure de ce Fils qui est envoyé, mais aussi dans la figure de ce Jésus-Christ qui enseigne. Pourrons-nous jamais l'atteindre? En tout cas, il nous est donné de nous y efforcer, et c'est déjà pas si mal. Un indice selon lequel Dieu peut nous croire capables de vivre cette authenticité malgré nos efforts de destruction et d'isolement. Un indice de cela se trouve, je crois, dans la construction même de la parabole de ce jeu. Car si l'on y prête garde, ce n'est pas Jésus qui clôture ce récit du viticulteur insensé. Après avoir raconté le meurtre de celui-ci, au verset 39, Jésus subitement interroge ses auditeurs. Maintenant, lorsque le maître de la vigne revient, va revenir, que fera-t-il à ses vignerons? Et ce sont les auditeurs eux-mêmes qui tirent une conclusion logique. Eh bien, il fera périr misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui donneront les fruits en leur saison. Et là, que répond Jésus, si j'ose dire? Eh bien, rien. En tout cas, rien directement. Il ne leur dit pas, eh bien, vous avez raison. Il n'affirme ni ne confirme catégoriquement leur conclusion logique. Le terrible et meurtrier jugement de Dieu qui tue tous les vignerons. Comme si la chute de l'histoire était en quelque sorte suspendue. Mais Matthieu, comme Luc, comme Marc, peut-être insatisfait de ce procédé, nous montre un Jésus qui conclut quand même cette parabole à l'aide d'une métaphore tirée de l'Ancien Testament. La pierre rejetée, c'est elle qui devient la pierre d'angle, la principale. Et chez Matthieu et chez Luc, cette pierre, elle écrase même ce sur qui elle tombera. Ainsi, à la réponse logique suscitée par une histoire imagée, la parabole, Jésus renchérit par une autre image, l'image de la pierre, laissant du champ, ouvrant un espace de liberté à l'auditeur pour s'y inscrire et faire ses choix. La parabole commençait par écouter une autre parabole et elle se finit par un n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Mais est-ce vraiment la fin? Oui, dans un sens, on peut dire que Jésus conclut la parabole, puisque nous sommes là. Cela veut dire, historiquement, comme Calvin le soulignait terriblement par ce terme de vengeance, que Jésus a gagné, que sa parole de vie a triomphé et qu'elle s'est transmise. Mais d'un autre côté, cette parabole n'est pas close. Non, ce n'est pas une fin. Car Jésus, en même temps, nous renvoie encore et toujours à écouter. Écouter. Et à lire dans les Écritures. Et à tirer des conclusions logiques par nous-mêmes. Il nous incite par là, je crois, à nous garder de nous enfermer dans les enclos de nos certitudes. Dans les fantasmes mortifères de nos autonomies qui empêchent Dieu, dans un lien vivant, de nous rencontrer tous, nous et les autres, et de profiter ensemble des fruits de la vigne qui lui reviennent et qu'il a promis en disant ailleurs dans le Nouveau Testament, prenez et buvez-en tous. Un bon moment à passer bien au-delà de son cercle d'amis, dans la communion universelle.